Nous nous sommes beaucoup occupés de l'islam, qui est une religion fort importante, mais il ne faudrait pas donner l'impression qu'il y a des religions de première classe et des religions de seconde classe. Donc pour nous, toutes les religions sont égales. J'ai voulu regarder cette année vers l'Asie. Alors au Japon, ce qui est frappant, c'est la religion est partout. Les Japonais naissent dans le shintoïsme, ils pratiquent le bouddhisme, donc il y a une espèce d'amalgame religieux qui fait qu'on a l'impression que la religion fait partie du tissu social. Ce qui m'a frappé, c'est que les Japonais ne cherchent pas dans la religion une vérité absolue, mais plutôt un apaisement face justement aux rigueurs aux épreuves de la vie.
Comment œuvre l'Église locale japonaise pour le dialogue interreligieux?
Le dialogue interreligieux se fait au niveau des églises locales, non pas, il ne se fait pas au niveau des élites, mais au niveau des paroisses, des écoles, des universités. Par exemple, nous avons un réseau d'écoles et d'universités qui est prestigieux. Et donc, là, il y a effectivement un terrain, ce dialogue de la vie, dialogue spontané de la vie entre les différentes religions. Et tout ça se développe dans l'harmonie, car c'est une chose qui est très frappante. C'est un pays où tout le monde est fort bien élevé, tout le monde se respecte. Donc il y a une espèce de philosophie de l'harmonie, je dirais, qui favorise ce dialogue serein.
Vous avez participé également à des messes dans ces villes qui ont été dévastées il y a plus de 60 ans par deux bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki. Comment vous les avez perçues?
D'abord, c'est quand on visite les musées, on a presque honte d'appartenir à cette humanité. C'est indicible de voir ce que l'homme est capable de faire. Alors il y a ce côté, disons, dramatique. Et puis de l'autre, il y a cette volonté de dire, eh bien, nous nous souvenons. Pourquoi? Pour éviter que dans le futur, on recommence à faire les mêmes choses. Il y a eu dans tous les discours un accent particulier mis sur les propos du nouveau président américain Obama à Prague, en ce qui concerne l'élimination de toute arme nucléaire. Mais ce qu'il y a de très beau dans notre communauté catholique, c'est qu'il n'y a aucun sentiment de haine, de vengeance, mais la volonté d'être vraiment des chrétiens authentiques pour refaire du Japon moderne une société où il fait bon vivre, disons, où tout le monde est heureux de vivre, de participer ensemble à la construction de la société.
Le dialogue interreligieux en Asie est une des priorités du pontificat de Benoît XVI. Comment votre conseil, Éminence, compte aider les chrétiens discriminés dans ces pays?
On ne peut aider que les évêques, favoriser les contacts. Comme je le dis toujours, ce n'est pas ici à Rome que se fait le dialogue interreligieux, c'est sur place. Le pape Benoît XVI a fait de ce dialogue interreligieux une priorité de son pontificat, dans la mesure même où ce pape a ce grand souci de la vérité, et le dialogue interreligieux, c'est d'abord le pèlerinage vers la vérité. On est tous ensemble en marche vers la vérité, de manière à ne pas, disons, bâtir un dialogue sur l'ambiguïté qui serait évidemment le condamner à mort.
Vous partez en Indonésie au mois de novembre. Pourquoi ce pays?
L'Indonésie est le plus grand pays musulman de cette partie du monde. Et donc, c'est très important que j'aille là-bas pour encourager les évêques, les prêtres et religieux, les fidèles, et voir aussi un islam qui s'incarne à travers une autre culture que celle du Moyen-Orient. Parce qu'il n'y a pas un visage monolithique de l'islam, il y a plusieurs manières de vivre l'islam, de le pratiquer.